Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons 7 films en boutique. Et alors, et moi, oui. j'aurais 2 comédies. Je vais le placer tout de suite. Perfect Day et puis eh bien, des nouvelles de la planète Mars.
Et moi, et eh bien, je vous parlerai de Seul contre tous, le nouveau film avec Will Smith, même si 10 films portent ce titre, et ainsi que Éperdument de Pierre Godot.
Et alors toi Manu, alors t'as le meilleur film de l'année et puis le meilleur film breton de l'année je crois.
Oui, peut-être déjà l'un des meilleurs films français de l'année avec Suite armoricaine et puis le nouveau film de Hu Shaoxian, The Assassin.
Et puis on écoutera aussi Eric Antolin du festival Itinérance puisque c'est un festival eh bien, plutôt boulimique avec plus de 200 films et donc on parlera un peu de cette programmation, c'est Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Mic 2, Mic 2, this is Mic 1, come in.
Copy, member, this is me, go! I can't hear you, come back with that!
Drôle d'ambiance pour un film qui a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs et qui a remporté le Goya du meilleur film en Espagne. Perfect Day de Fernando León de Aranoa nous renvoie dans les Balkans, dans les années 90, aux côtés d'un groupe d'humanitaires qui cherche à enlever un corps tombé dans un puits. Alors le problème, c'est que la seule corde qu'ils avaient eh bien, a lâché et que le corps menace de souiller l'eau du village. Ce n'est pas très gai. Et pourtant, avec ce défi, trouver une corde, eh bien, Fernando León va nous réaliser un long métrage tentant d'équilibrer à leur situation absurde, dialogue percutant et musique rock'n'roll dont on a écouté un petit extrait. Alors pour cela, il dispose d'un casting intéressant. Hein. Tout d'abord, les vieux briscards avec Benicio del Toro qui aimerait en finir avec sa mission et Tim Robbins qui se demande quoi faire d'autre que de jouer les humanitaires. Alors l'un joue les masses sensibles tandis que l'autre joue les comiques troupiers et avec quand même beaucoup de réussite. Ces deux hommes sont accompagnés par deux femmes, une idéaliste, une française, interprétée par Mélanie Thierry, qui arrive pour sa première mission et qui, évidemment, amuse ceux qui sont expérimentés. Puis une beauté slave qui a succombé lors d'une autre mission au beau Benicio, c'est Olga Kurylenko. Alors son rôle est de statuer sur le besoin de poursuivre la mission ou d'arrêter complètement les frais. Alors pour finir, au milieu de ces personnages, eh bien, on trouve un interprète flegmatique et un enfant bilingue qui a perdu son ballon. Comme tout le monde ne rentre pas dans une voiture, les personnages sont placés au gré des situations dans l'un des deux 4x4. Alors les allées et venues des personnages quadrillent un espace qui nous fait connaître les casques bleus, l'armée du pays et la population, alors du commerçant au mafieux, en passant par le type en haut d'une colline dont la seule fonction est de surveiller un drapeau qui flotte au vent. Voilà, c'est son boulot. Alors, Fernando León de Aranoa a pris le parti de rire d'à peu près tout, hein, jusqu'à un certain point, en alignant les séquences délimitées par des trajets, donc en voiture, sur une musique souvent énervée, voilà pour le style. Alors que nous sommes en guerre dans les années 90, la lumière est plutôt chaude, hein, il y a un parti pris pour la légèreté, la satire et l'ironie. Mais si la présence des forces internationales est moquée, si l'impossibilité d'agir pour les ONG est pointée du doigt, et si la fine équipe s'amuse bien, eh bien, cette journée, le réalisateur n'en oublie pas de tisser aussi notre intrigue qui mêle le jeune garçon et son destin. Aussi, on traverse un pays ravagé par les mines, parsemé de ruines et avec une rancœur qui se dessine alors que la paix eh bien, est déjà signée. Si on accepte le côté mordant du propos, parce qu'après tout, le réalisateur a quand même réalisé des documentaires sur des ONG engagées dans des conflits armés, il l'a fait au moins par deux fois, eh bien, on peut être moins emballé par la forme. Hein. Le film est rythmé par une bande-son souvent nerveuse, donc donnant aux séquences le goût de sketch d'une mini-série qui voudrait nous faire accepter les horreurs de la guerre par le rire. Perfect Day devient un peu trop lisse, une mécanique à la belle lumière et au beau casting, mais on appréciera quelques bonnes séquences avec un Tim Robbins qui fait plutôt plaisir à voir. Et eh bien, un peu comme la semaine dernière, j'avais fait avec Belgica, là je vous fais un petit compte-rendu de la bande sonore qui est plutôt fournie.
To young men, everyone. Ay, amigo, gorila, ni dio el cine.
My older sister, and you follow us home.
Lili, lili, lili,
la 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 li 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 da li da li da da.
Et oui, il y a les Velvet Underground, mais il y avait aussi les Ramones, c'est avec ça qu'on a commencé. Et puis, il y a aussi Gogol Bordello, peut-être ceux qui l'ont connu, et bien d'autres. Voilà, c'est A Perfect Day, sous-titré en français, enfin pour en tout cas la distribution française, un jour comme un autre, puisque l'on suit donc cette équipe d'humanitaires pendant une journée, et ça sort, ça sort le 16 mars.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et on passe maintenant à Éperdument de Pierre Godot avec Adèle Exarchopoulos et Guillaume Gallienne. Un directeur pénitentiaire à la vie de famille et à la carrière exemplaire tombe sous le charme de Anna, nouvelle détenue en attente d'être jugée. Très vite, au mépris de l'interdit et du danger que cela représente pour sa vie bien rangée, il débute avec elle une relation passionnelle.
Bonjour maître.
Monsieur le directeur.
Alors vous le sentez comment ce dossier ?
Compliqué.
Je sais qui vous êtes. Évitez de vous faire remarquer.
Je vais prendre combien à votre avis ?
Je sais pas, c'est pas mon métier. Moi, ce qui m'importe, c'est que ça se passe bien ici. Ok ? C'est pour vous aider que je dis ça. C'est pas moi qui suis enfermé.
D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un ?
Vous y croyez au destin ?
Pareil qu'on récolte ce que l'on sème. Alors je dois mériter tout ce qui m'arrive.
Alors, c'est quoi le problème ?
Vous.
Alors, avant d'aller voir le film, eh bien, voilà. En fait, un truc me saoulait un petit peu dans la bande-annonce. Bah, voilà, comme je te l'ai dit, Vincent, je me suis dit, allez, encore une fois, on nous fourgue un couple complètement irréaliste, à savoir un quadra au physique très quelconque, hein, et puis une nana à peine vingtenaire, super jolie, tout en nous faisant croire que c'est très banal, comme c'est souvent le cas au cinéma, même si on est quand même en 2016 et que non, ce n'est plus du tout la norme sociale actuelle. Il s'avère que pour Éperdument, eh bien, la problématique est quelque peu différente, en fait, puisque le film est adapté de faits réels. L'histoire de Florent Gonsalves, directeur pénitentiaire, qui a entretenu une relation avec une de ses très jeunes détenues, une certaine Emma, qui faisait partie du célèbre gang des Barbares. Voilà qui aurait pu donner une dimension supplémentaire à l'adultère, puisque derrière la sensualité de la jeune femme et son air angélique se cache en quelque sorte un monstre et que son amant en a conscience. Mais probablement, eh bien, pour éviter le côté casse-gueule du projet, parce qu'on peut imaginer que prison, plus relation adultère, plus crime antisémite, plus fait réel, ça faisait un peu beaucoup à traiter pour un seul film, le réalisateur prend le parti de se focaliser sur uniquement la romance, vouée évidemment à l'échec, et sur ses deux protagonistes sans jamais aborder le crime en lui-même ou les motivations de la jeune femme. Alors, quand je suis allée voir le film, eh bien, l'hôtesse de caisse m'a gentiment informé que les scènes de sexe étaient très crues et qu'elle se demandait même si les petits vieux qui venaient pendant l'après-midi n'allaient pas faire une attaque. Et c'est vrai qu'on nous a aussi un peu vendu le film avec cet argument passion torride. Malheureusement, ce n'est pas du tout aussi brûlant que justement ça le devrait. Et je vous rassure, vous pouvez très bien y aller avec vos grands-parents, hein, parce que les quelques passages un peu osés ne sont vraiment pas choquants et c'est presque dommage parce que ça manque un peu justement bien de chair.
Une famille, tu te rappelles ? On a fait une connerie, je suis désolé.
Il faut que tu le quittes.
Viens pas ici, viens pas chez moi, c'est pour me dire Thomas.
Mais c'est pour ton bien, tu fais des conneries là.
Je vous fais tomber moi. Je raconte tout ce que je sais.
Qu'est-ce que je t'ai fait, dis ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? J'ai tout lâché.
Des fois j'ai envie que tout s'arrête.
Alors si le film dans sa globalité n'est pas vraiment transcendant, un peu comme la bande-son qu'on vient d'entendre, eh bien le couple central est quand même bien plus crédible qu'on pourrait le redouter à la vue de la bande-annonce. La force des deux personnages, c'est que chacun soit interprété avec suffisamment de nuances pour que le duo ne semble pas manichéen et que l'on évite ainsi le diptyque attendu du pauvre homme marié innocent séduit par la criminelle manipulatrice. C'est surtout Guillaume Gallienne, hein, qui est extrêmement crédible. Alors j'ai pu lire dans la presse qu'il était trop identifié comme acteur comique pour s'adapter à ce rôle. Je trouve que c'est totalement faux. Il nous prouve ici vraiment une nouvelle fois son potentiel dramatique. Quant à Adèle Exarchopoulos, bien elle est plutôt bonne, hein, aussi, quoique elle ne parvienne pas vraiment à rendre... Oh là là, bah, ça y est, j'ai entendu la blague. Hein. Bon, bref, je ne me laisse pas distraire. Elle est donc plutôt bonne, quoique elle ne parvienne pas vraiment à rendre son personnage attachant. Et le fait qu'elle joue avec des vrais détenus fait que l'on a quand même un peu de mal à croire à son personnage qui apparaît vraiment comme la bombe atomique au milieu des nanas sans dents et au teint grisâtre. Hein. C'est moyennement crédible. L'idée étant bien évidemment que le spectateur tombe amoureux d'elle en même temps que le personnage de Guillaume Gallienne afin de forcer l'identification. Sauf que du coup, eh bien, son personnage, toujours bien maquillé, bien coiffé, bah, perd en crédibilité. Dans le même registre, il y avait eu Omblin avec Mélanie Thierry sur les femmes enceintes en milieu carcéral qui avait davantage finalement osé sacrifier le physique de son actrice et c'était un meilleur choix, j'avais trouvé. Donc ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup gênée en fait. Dans ce film-là, ça manque un petit peu de crédibilité. Éperdument, ben, moi je pense que voilà, je suis assez mitigée. C'est un film moyen, c'est ni tout à fait raté, ni vraiment exceptionnel.
Et tu parles des relations hein, entre un quarantenaire et puis une vingtenaire.
Oui, tout juste, là, vraiment très jeune.
Dans The Perfect Day, Benicio del Toro, qu'on peut qualifier de cinquantenaire, lui, pareil, a une Olga qui a une trentaine d'années.
Ah là, oui, mais voilà. Comme c'est souvent dans les films. Oui, parce que comme les films sont écrits par des mecs de 40-50 ans qui ne rêvent que de ça, en fait, c'est ça le problème. Si les films étaient écrits par des filles de 25 ans, on n'aurait pas ce même genre d'histoire, en fait.
Fantasme que tout cela. Allez, nous allons passer maintenant, eh bien, quasiment au meilleur film de l'année.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Je m'avance peut-être un peu, hein, on est qu'en mars, hein, mais bon. Alors, j'avais perdu de vue, je pense pas, je ne vais pas être le seul, hein, Wu Xiaoxian, depuis l'hypnotique Millennium Mambo. Hein, les trois films suivants, hein, Three Times, Café Lumière et Le Voyage du Ballon Rouge, ils ont eu droit à des sorties très discrètes. Hein. Donc, après 8 ans de silence, le Taïwanais revient en grande forme avec The Assassin, présenté cette année au festival de l'an dernier, hein, au festival de Cannes 2015, et lauréat à juste titre du prix de la mise en scène. La plus belle distinction, à mon sens, que l'on puisse rendre à un film. Pourtant, le film s'est fait quand même attendre et loin de la grande fresque, le cinéaste nous livre en 1h45 un bloc d'épure, un film concis et sans fioritures d'un lyrisme sec. Alors, dès les premières images en noir et blanc, hein, l'évidence d'assister à une expérience unique, magique, saute aux yeux. Alors, le soin apporté au cadrage, hein, le découpage tranchant, laissant pourtant les plans respirer dans la durée, le grain de l'image unique, la beauté presque indécente de Chucky, la chorégraphie abstraite et minimaliste de la première scène d'arts martiaux marque les intentions radicales d'un auteur qui s'empare d'un genre, le Wuxiapiam, c'est le genre, hein, film, ça doit vouloir dire film d'arts martiaux, pour l'emmener vers des territoires inédits. Alors, la démarche un peu jusqu'au boutiste du cinéaste risque de laisser les spectateurs novices sur le carreau, les plongeant dans un profond ennui. Mais si on accepte de se laisser enivrer, si vous êtes sensible aux textures sonores et visuelles, à la peinture et à la calligraphie, comme source d'inspiration explicite, alors vous serez enchanté par un cinéma exigeant, d'une beauté quand même plastique sans commune mesure. Alors, les 5 premières minutes en noir et blanc laissent rapidement place à la couleur. Le contraste est saisissant et ne fait qu'accroître les qualités d'une stupéfiante colorimétrie qui ne s'autorise aucun effet numérique. Le réalisateur, aidé par son chef-op, travaille la lumière naturelle aussi bien en extérieur, avec la brume, l'arrivée des nuages, les éclats du soleil, qu'en intérieur, avec les bougies, les voiles devant la caméra, donnant à l'image une sorte de beauté floutée un peu étrange. J'ai pensé étrangement aussi à Barry Lyndon, puisque tous les éclairages à la bougie, je pense qu'il y a une référence explicite.
Donc tu penses que la NASA a redonné un objectif à Wu Xiaoxian ?
Peut-être. Alors, l'art du cinéma contemplatif, lumineux et généreux au sens pictural est au service d'un récit foisonnant, complexe, savamment elliptique, qui brille par son absence de superflu et qui nous demande une attention qui fait plaisir, qui gêne aussi un peu, hein, mais enfin un cinéaste qui mise sur l'intelligence du spectateur au point de nous perdre parfois. Alors, pour être synthétique, disons qu'il s'agit de l'histoire de Yin Yang, une justicière qui a été élevée par une nonne loin de sa famille, la nonne qu'on appelle la nonne blanche, hein, l'a initiée dans le plus grand secret aux arts martiaux et lui confie des missions périlleuses à accomplir. La dernière en date, draconienne, est d'assassiner son cousin, Tian Yan, qu'elle a aimé jadis. Elle va devoir choisir, sacrifier l'homme qu'elle aime ou rompre pour toujours avec l'ordre des assassins. Et son choix ne sera pas sans conséquence sur le maintien ou non de la paix entre la cour impériale et la province de Weibo, dirigée par Tian Yan, le défiant ouvertement un empereur fragilisé. Alors, tout l'aspect politique est très compliqué. Enfin, moi, j'ai décroché. Hein. Alors, si la moindre ligne de dialogue est zappée, hein, le fil du récit se délite pour le spectateur distrait par la splendeur visuelle d'une œuvre quand même unique, frappée par la grâce totale de ses images. Alors, la caméra, qui opère de légers travelling constants de gauche à droite, comme dans un effet de balancier, est à elle seule un personnage. On pourrait presque parler de caméra pinceau, dans ce fait même de changer de lumière, de couleur, d'ambiance au sein d'un même plan. Alors, la singularité profonde du film est de faire cohabiter dans un même esprit d'exigence une œuvre vouée à la contemplation, à la rêverie, articulée autour d'un récit politique qui demande de la concentration. Enfin, c'est un peu paradoxal. D'habitude, les films contemplatifs ont des récits très minimalistes. Et là, c'est pas le cas. Alors, d'où ce besoin d'y retourner, de le revoir. En fait, les gens qui ont aimé le film, généralement, ils sont retournés 2-3 fois. Alors, les rares combats sont fulgurants, mais risquent de frustrer les amateurs du genre par leur brièveté, hein, leur côté tranchant et par certains choix de mise en scène intransigeante. La première séquence d'action est filmée de très loin et on ne voit quasiment rien. Alors, c'est assez...
Frustration, donc.
C'est assez frustrant, voilà. Mais bon, c'est un film sidérant plastiquement, hein, qui a aussi une forme de cadre très particulier.
Oui, il est filmé en 4 tiers.
Alors, en 4 tiers, en 1,41. Je ne connaissais pas ce cadre, mais avec le numérique, on peut faire un peu ce qu'on veut aujourd'hui.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Eh bien, en tout cas, film à aller voir au revoir de Assassins, déjà sur les écrans.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Harry, un ami qui vaut vu du bien, film de Dominique Moll sorti en 2000, fut un beau succès. En y regardant de plus près, eh bien, on s'aperçoit qu'on n'avait plus trop de nouvelles de l'équipe gagnante du film. Laurent Lucas se fait rare, Sergi Lopez aussi, même s'il fait une intervention dans le film A Perfect Day que j'ai chroniqué un peu avant. Et puis Dominique Moll n'aura réalisé que 2 films en 16 ans, c'est peu, et le dernier, Le Moine, eh bien, était plutôt un bide vu le prix qu'il a coûté. Manu, tu voulais ajouter ?
Non, et raté en plus, raté, d'après voilà. Un très très grand roman inadaptable.
Alors c'est donc avec plaisir qu'on retrouve le réalisateur de Lemming pour une comédie existentielle des nouvelles de la planète Mars. Mars étant le nom de Philippe, joué par François Damien. C'est un ingénieur en informatique dans le mou de la vie, à 49 ans, avec 2 ados dans les pattes, l'un qui devient végétarien et puis l'autre qui est acharné de boulot pour éviter la punition que vit son père. Et enfin, un collègue de boulot qui se promène avec une hachette pour se calmer les nerfs. De même que Sergi Lopez dans Harry, un ami qui vous veut du bien, voulait en bon psychotique faire place nette autour de son ami au point de faire disparaître femme et enfant, et bien ici, le collègue de boulot, Vincent Macaigne, va faire irruption dans la vie de Philippe dans des proportions qui portent davantage à la comédie qu'au thriller. Alors l'idée scénaristique plutôt facile pour une comédie est ici de placer un être déstabilisé aux prises avec un être raisonnable. Et parce que la recette est vieille comme le cinéma, eh bien ça fonctionne.
Zéro ! C'est quoi ça ?
Bah ça c'est des grenouilles, hein.
Oui ça je le vois bien, mais qu'est-ce qu'elles foutent dans ma salle de bain ?
Tu sais combien d'animaux sont abattus chaque année pour la consommation de viande ? 100 milliards chaque année, tu te rends compte ?
200 000 par minute, 3300 par seconde.
Eh ben on a décidé d'agir. Ils vont ouvrir un nouveau centre d'élevage de poules pondeuses. Un truc ultra moderne, enfin. Ils vont pouvoir exterminer encore plus de petits poussins.
On va le faire sauter.
Ouais.
Avec quoi ?
Bah, avec des explosifs, hein.
Et ils sont où, ces explosifs ?
Bah, ils sont. Enfin, ils sont sous ton lit.
Sous mon lit ?
Alors pour noircir son propos, Dominique Moll nous place majoritairement dans des intérieurs, sans horizon et puis de nuit. Le jour est dédié au monde de l'entreprise qu'il observe avec une certaine cruauté. Il place une touche surréaliste en figurant les rêves de Philippe et le monde des possibles en le représentant cosmonaute, soit en faisant apparaître eh bien, ses parents qui se montrent bien plus heureux que lui. En termes de rythme, eh bien, ça n'est pas forcément ça, c'est un peu sur le même film pendant tout le film. Pour autant, des nouvelles de la planète Mars, malgré un jeu un peu faible de François Damien, peut faire sourire et quelques scènes font mouche. Comédie existentielle ne rime jamais avec poilade. C'est déjà sur les écrans.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Nous enchaînons avec Seul contre tous de Will Smith. Alors Seul contre tous, eh bien justement, s'inscrit dans la lignée des flops de l'acteur américain, donc de 49 ans. Flop qu'il a quand même pas mal enchaîné ces dernières années. Mais pour le coup, eh bien là, ça n'est pas vraiment mérité. Seul contre tous, alors c'est l'une des traductions les plus nulles que j'ai pu croiser cette année, parce qu'il y en a quand même déjà au moins 20, voire 30 des films qui s'appellent Seul contre tous. Ça s'appelle en réalité Concussion, ce qui signifie commotion en anglais. Et ce qui est aussi un titre bien plus adéquat. Le film semi-biopic, semi-thriller s'appuie sur le livre éponyme de Bennett Omalu, médecin légiste nigérian immigré aux États-Unis. Ce dernier a découvert il y a quelques années seulement, dans les années 2000, que les chocs à répétition encaissés par les joueurs de football américains les faisaient développer une mystérieuse maladie du cerveau proche de la démence précoce qui les poussait à l'automutilation et au suicide. Naturellement, dans un pays où Dieu est numéro 1 et le football numéro 2, la nouvelle ne va pas faire plaisir à tout le monde.
Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Ils veulent que vous reconnaissiez avoir tout inventé.
Que moi j'ai tout inventé ?
Ils vous accusent de supercherie.
Si vous vous rétractez, vous n'aurez rien à craindre. Tout ça s'arrêtera.
Quoi ? Pourquoi font-ils ça ?
Mais parce que vous les terrifiez. Bennett Omalu s'attaque de front à une énorme corporation qui rassemble 20 millions de personnes chaque semaine. Des gens qui ont besoin de leurs produits, comme ils ont besoin d'air pour vivre. La NFL s'est octroyée un jour par semaine. Celui-là même que l'Église avait avant, Maintenant, c'est le sien. Elle est monumentale.
Alors, j'ai d'abord pensé, hein, bien que tout cela avait été romancé, exagéré. Après quelques recherches, il s'avère que le film colle parfaitement à la réalité et c'est ce qui, justement, lui donne vraiment un intérêt particulier. Et finalement, peut-être, eh bien, que la NFL, justement, la Ligue nationale de football, a bien réussi son coup, car on n'en a pas beaucoup entendu parler. Alors bon, sans tomber forcément dans la théorie du complot, c'est quand même hallucinant. Ce médecin a été naturalisé américain le mois dernier. On n'a ni entendu parler de lui, ni donc de cette fameuse maladie liée au football dont on parle très bien dans ce film. Alors, le début du film, eh bien, justement, est assez prenant. Le jeu de Will Smith peut laisser présager le pire. Il parle quand même avec un accent africain à couper au couteau. Mais il s'affine, heureusement, au fur et à mesure du film. Et il est même un peu surprenant, bah, finalement, qu'il n'ait pas été nominé aux Oscars pour le rôle, d'autant que les personnages seuls contre tous, en général, ça marche très fort niveau récompense. Alors, on a droit à quelques petites analyses acides, hein, de la société américaine, de son addiction au football, à la religion, au détour des dialogues, sans non plus que le film soit une réelle critique, et c'est un peu dommage qu'il n'ose pas aller plus loin. En revanche, la mise en scène, eh bien, est vraiment de très mauvais goût. Elle se contente d'être soit trop académique, soit d'être clairement laide, sans choix esthétique réel, si ce n'est celui des couleurs ternes et des plans sinistres. C'est un peu dommage, et puis bon, du coup, un film aussi moche à voir, quand il dure 1h20, c'est largement assez, quoi. Là, ça dure 2h, c'est un peu trop long. Bien, encore, voilà... Au bout du compte, c'était assez médiocre.
Il vaut mieux voir un seul contre tous avec, avec Bruce Willis, c'est ça, hein.
Ou avec
Bruce Willis.
Non, non, bah on imagine.
Bah oui.
Voilà, on passe à Suite Armoricaine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Françoise, une enseignante en histoire de l'art revient dans sa région natale pour enseigner à l'université de Rennes. Elle va replonger dans son passé via une intrigante photo de groupe en noir et blanc qu'un de ses anciens amis lui fait parvenir. Alors cette photo, prise en 1981, va faire ressurgir des fantômes et rouvrir des blessures qu'elle croyait fermées à jamais. Alors en parallèle, Yon, un jeune étudiant un peu perdu, débarque à la fac au même moment. Leur destin va se croiser, car ils ont un passé commun. Alors attention, film un peu mystique. Au sein d'une production hexagonale de plus en plus convenue, Suite Armoricaine impressionne par l'ambition du propos et les choix formels à l'œuvre au cœur d'un récit fleuve de 2h28. Par l'ampleur de sa mise en scène et la richesse de son scénario gigogne, ce deuxième film de Pascal Breton, un nom prédestiné, après Illumination sorti en 2004, sort des sentiers battus, frappe par l'audace de sa construction, l'originalité des thèmes abordés et le mélange des genres. Alors d'emblée, une grande qualité élève ce film hors norme. Son ancrage territorial n'apparaît pas comme un artifice inscrit dans un décorum touristique dont le seul but serait l'étalage de beaux paysages provinciaux. Pascal Breton filme la Bretagne, particulièrement Rennes et ses environs, notamment ben, la forêt de Brocéliande, hein, qui se trouve à côté de Rennes, comme un lieu magique, mystérieux, sans jamais sombrer dans les clichés régionalistes ou pire, New Age. La cinéaste tente de s'imprégner de l'atmosphère particulière dégagée par cette région, de sa richesse culturelle, de son patrimoine, et de retranscrire tout ça à l'écran par la puissance des images. Alors, Suite Armoricaine s'articule autour de deux récits parallèles, mais différés dans le temps, ce qui permet à la réalisatrice de distordre la durée, de refilmer même la même séquence d'un point de vue différent, et d'opérer de subtils changements de perspective dans la conduite de l'histoire. Alors, la cinéaste, avec une grande sensibilité, hein, évoque par petites touches impressionnistes un passé baignant dans un univers, on va dire, New Wave, ou mi-punk, mi-New Wave. Elle rend hommage sans nostalgie qu'on passait, ni rancœur aucune, à une génération insouciante et festive traversée par la drogue, l'alcool, la musique, la mort. Alors il n'y a aucune posture revival dans ce constat plus triste qu'amer, mais Pascal Breton choisit aussi, via une galerie de personnages d'étudiants, de faire vivre le présent avec un souffle romanesque qui rappelle un peu le cinéma d'une autre Pascal, Ferrand cette fois-ci, qui avait réalisé le très beau Bird People. Alors, Suite Armoricaine est une étonnante réflexion sur la mémoire au sens global du terme, traversée par une mise en scène inspirée qui tente de percer l'indicible, l'invisible, notamment en creusant ce qui se cache derrière les paysages de cette Bretagne assez fascinante. Un film vraiment étonnant et porté aussi par des interprètes tous géniaux, notamment Valérie Tréville, que je ne connaissais pas. Qui est, voilà.
Suite Armoricaine est sorti dans les salles le 9 mars.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Et on file très vite du côté du festival Itinérance, grand festival qui va débuter. À défaut d'entendre Antoine Leclerc, son directeur, on écoute Eric Antola. Bonjour Éric Antolin, vous êtes responsable de la communication du festival Itinérance d'Alès, festival qui se déroule du 18 au 28 mars, forcément, à Alès. C'est vous qui allez parler de ce festival, de cette nouvelle édition qui va mettre en avant le cirque.
Oui, ça va être le thème de la rétrospective thématique qui s'appelle En Piste. Donc ça va proposer des films sur le cirque qui viennent d'un peu tous les pays, d'un peu toutes les époques du cinéma et qui va revenir aussi sur tous les aspects du cirque, du plus classique au plus contemporain, avec des fictions, des documentaires, des rencontres et beaucoup de choses qu'on propose pendant les 11 jours du festival.
Il y a le gros plan sur le cirque, évidemment, mais il y a aussi alors les traditionnels hommages. Hein, et cette année, alors, un hommage un peu particulier quand même, c'est celui sur Steve McQueen, alors pas le réalisateur mais l'acteur.
The King of Cool, comme il était surnommé, et un hommage qui s'appelle Steve McQueen à toute vitesse parce que ça va être sur ses relations avec les sports mécaniques, quelque chose qu'il pratiquait, qu'il aimait beaucoup, qu'il aimait même peut-être plus que le cinéma. On va présenter des films, on va présenter Guet-apens, Bullitt, l'affaire Thomas Crown, La Grande Évasion. Des films dans lesquels il conduit des véhicules. La Grande Évasion, c'est une moto. Bullitt, c'est la mythique Mustang qui est vraiment associée à Steve McQueen. Il y aura un documentaire qui s'appelle Steve McQueen, The Man and Le Mans, qui revient sur le tournage du film Le Mans. De photos. Cette exposition se passe au pôle mécanique à Les Cévennes et il y aura le même modèle que la Mustang qui conduisait dans Bullitt ou de la Triumph Bonneville, la moto qu'il avait dans la Grande Évasion.
Et puis aussi, alors là, quelqu'un que vous présentez comme l'un des premiers génies du cinéma, vous osez, Segundo de Chomón.
Il y a un des premiers génies du cinéma, le concurrent direct de Méliès, concurrent direct parce que c'est Pathé qu'il avait embauché justement pour concurrencer Méliès qui avait pas mal de succès à l'époque. Donc c'est des films à trucs. C'est pas la première fois qu'on passe des films de lui et on voulait vraiment lui donner encore un peu plus de lumière sur sa carrière.
Bien, pour terminer, sur ces hommages, il y aura aussi celui du réalisateur polonais Jerzy Skomilowski. Il y aura bien une grande figure du cinéma documentaire, la réalisatrice néerlandaise Eddie Honigman, et puis un regard sur le cinéma d'animation allemand. Alors, Éric Antolin, ce qui fait aussi la force du festival Itinérance d'Alès, ce sont les avant-premières et les films inédits. Alors, il y en a beaucoup. Peut-être le plus simple pour terminer, ce serait de lier les invités que vous allez avoir et puis les avant-premières. Parler de... Allez, on va dire trois invités dont vous êtes sûr et qui vont présenter leur film.
C'est compliqué, on ne peut pas tout voir. Il y en a 73 cette année. On va faire trois. Donc, Chassol, le musicien, à qui on a demandé de choisir des films. Il a choisi deux films très différents. Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone et un documentaire des Pays-Bas de Johan van der Keuken. Il donnera aussi un concert lundi 21, Big Sun. Et ce sera la veille de l'ouverture de Tropisme, où il donnera un autre concert. C'est deux concerts qu'on fait en collaboration avec le festival Tropisme. Jerzy Skolimowski, parce que c'est une grande figure du cinéma mondial. On va présenter une dizaine de ses films, dont 11 minutes qu'il vient de réaliser. Après, s'il faut en choisir un troisième, ça va être super compliqué pour moi, entre Gilbert Melki qui vient pour l'ouverture, Blancali, la chorégraphe, qui a adapté une de ses pièces chorégraphiques au cinéma, qui viendra en fin de festival. Je ne sais plus que choisir, avec Zenzila qui viendra aussi. Voilà, je, pour le troisième, c'est des ex-échos.
Eh bien, merci Éric Antolin. Donc, on le rappelle, alors ça n'est pas que cela, parce qu'on peut difficilement parler de tout le programme du festival Itinérance.
Il y a 230 films, ouais, effectivement, c'est dur.
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur internet itinérance.org et en tout cas, rappeler bien que c'est des 18 au 28 mars à Alès. Merci. Et voilà, 230 films en 10 jours, ça fait 23 films par jour. Vous ne pourrez pas tout voir, mais allez voir le programme. Ça vaut le coup, Festival Itinérance d'Alès.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Nous avons déjà le début d'un programme pour la semaine prochaine.
Oui, moi je vous parlerai des ogres de Léa Fener.
Et puis Midnight Special, et puis peut-être Triple Nine.
Et peut-être un film qui va détrôner les déjà meilleurs films de l'année que tu as trouvé auparavant. On verra.
Impossible.
Suspense. À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
sur Divergence FM.